ma rencontre spirituelle aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons commémorer, célébrer un très grand événement dans notre histoire. C'est le 350e anniversaire des saints martyrs jésuites du XVIIe siècle. Saint Jean de Brébeuf que vous connaissez, Saint Isaac, Jogues et les autres. Je voudrais vous raconter, sans vous faire peur, le courage qu'ils ont eu aux mains des Mohawks, qu'on appelait à l'époque les Iroquois. Car l'année 1999 marque le 350e anniversaire de la mort de ces hommes extraordinaires. Gabriel Lallemand, Charles Garnier aussi, Antoine Daniel, Noël Chabanel, René Goupil, Jean de Lalande, et évidemment ceux que j'ai déjà nommés, Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, qui sont absolument phénoménaux. Ils ont été canonisés en 1930, et ils sont patrons secondaires du Canada depuis 1940, et ce sont des missionnaires, comme je vous ai dit, venus de France au XVIIe siècle, et qui sont devenus des figures, à mon sens, nationales. J'ai même fait mes études dans un collège qui porte le nom de Brébeuf, le collège Jean de Brébeuf. Et ces figures nationales sont proposées, donc, en exemple. À l'Église universelle, hein, ce sont des martyrs qui nous ont laissé en héritage des valeurs qui n'ont rien perdu de leur actualité, comme le rappelle René Latourelle dans un numéro de L'Homme Nouveau du 18 avril dernier. Ils ont vécu la réalité de ce qu'on appelle, comme étant quelque chose de nouveau, l'inculturation. Ils savaient même pas ce que c'était, puis ils l'ont vécu mieux que bien d'autres, car ces missionnaires de ce siècle qu'on appelle le grand siècle de la littérature française n'ont pas cherché à franciser les autochtones, pas du tout, ben, à peine. Ils en ont délibérément adopté le régime alimentaire, le mode de logement et surtout la langue. Bien plus, à un peuple de tradition orale qui n'avait pas d'écriture, ces Hurons surtout, dont ils se sont occupés, eh bien, ils ont fait don d'un dictionnaire puis d'une grammaire. Ils ont laissé bien d'autres valeurs. Commençons le 24 avril 1625, au début de notre pays. Un ancien professeur de lettres au collège de Bourbon, de Rouen. Rouen, comme vous connaissez, Rouen, où Jeanne d'Arc est morte. En Normandie, d'où une grande partie de nos familles viennent, où il avait aussi rempli la charge d'économe, comme on dit, de procureur. Eh bien, il y a un jésuite qui s'embarque pour la Nouvelle-France. Il a 32 ans, puis il s'appelle Jean de Brébeuf, justement. Et le père René Latourelle, je vous le signale, avec beaucoup de joie, a écrit à son sujet un livre magistral paru chez Bellarmin, beau format, relié, et récemment republié en livre de poche à un prix bien moindre. Vers la même époque, un jeune homme auquel on pourrait croire que son avenir est tout tracé d'avance, il abandonne sa carrière d'avocat. Il entre simplement au noviciat des Jésuites, toujours dans cette maison de Rouen, et lui s'appelle Antoine Daniel. Enfin, on parle dans ce même collège d'un autre professeur de lettres comme Brébeuf, qui a la réputation d'être un humaniste distingué, qui vient à son tour d'être nommé pour la mission du Canada, c'est le père Isaac Jogues. Simple coïncidence, imaginez, peut-être. En tout cas, en l'espace de 20 ans, ces hommes, dont les noms vont rester célèbres, se succèdent et se rencontrent probablement, j'imagine, sans doute même, au collège de Rouen. Trois hommes admirables. Leur mort atroce va exiger un tel héroïsme, un tel amour, que leurs bourreaux eux-mêmes, saisis d'admiration, voudront s'incorporer leur force indomptable. Et comment vont-ils faire ça? Je m'excuse de le dire, mais c'est dans les coutumes de l'époque chez ces Mohawks, ils mangeront le cœur de deux de leurs victimes. C'est une étrange communion sacrificielle qui nous semble terriblement barbare. Mais nous exposons-nous le cœur de nos saints. Et en regardant ces cœurs, nous voulons communier à tout l'amour qui a habité ces cœurs, le cœur étant symboliquement le siège d'un amour qui dépasse tout et qui se donne. En ces trois-là, Brébeuf, Isaac Jogues et Daniel, Antoine Daniel, on peut croire que ça suffit, mais non. En Nouvelle-France, oui vraiment, il y aura en tout 8 Français qui vont sacrifier leur vie pour implanter la foi chrétienne et la civilisation française chez nous. René Goupil, Isaac Jogues, Jean de Lalande, Antoine Daniel, je redonne les noms, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Noël Chabanel. Souvenons-nous de ces noms, car ce sont des héros. Ils ont donné leur vie aussi simplement qu'on pourrait donner, nous, à des pauvres, une petite aumône sur la rue. Leur sacrifice a fécondé notre sol chrétien. Et qu'est-ce qu'on en a fait, nous qui avons tant de... à penser qu'on pourrait enseigner un peu de foi à nos jeunes dans le col. Notre Église est en difficulté, je vous l'ai dit vendredi dernier. Mais pour eux, une vie d'explorateur, une vie de pionnier, une vie de missionnaire, une vie dont les fatigues, les dangers, les souffrances feraient hésiter les plus braves d'entre nous, bien c'est ça la vie. Que de leur plein gré, ces jeunes hommes, surtout dans la trentaine, ces hommes ont choisi de mener, c'est ça. C'est la vie qui s'achève dans les supplices les plus affreux, dans l'amour le plus total. C'est la vie donnée. Vous vous souvenez de cette parole, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ils aimaient les Hurons d'un amour qui dépasse tout entendement. Mais j'ajoute, parce qu'il faut y penser, il y a le froid glacial de l'hiver sans chauffage. La chaleur torride de l'été, sans climatiseur. Ils ont des logis ou des campements infects, où les missionnaires s'obligent à demeurer pour partager la vie des Amérindiens. Dans ces demeures bizarres, comme ils les appellent, c'est dans les relations qu'ils ont écrites, où la seule ouverture percée dans la toiture d'écorce se laisse péter un peu de jour, et par où la fumée tente de s'échapper, là, bien, combien de gens s'entassent dans ces étranges maisons jusqu'à 24 familles? Ça fait combien de monde, ça? Et l'atmosphère enfumée, très vite, devient absolument intenable. Si on tient à respirer, il faut parfois se coucher sur le ventre durant des heures entières, la bouche collée au sol. Je cite d'ailleurs le père de Brébeuf. Vous ne seriez resté debout dans cette maison, tant pour la bassesse que pour la fumée qui suffoquerait. Et par conséquent... il faut toujours être assis ou couché par terre. C'est la posture ordinaire des sauvages. Et le père de Brébeuf ajoute, un petit lieu, comme sont leurs cabanes, s'échauffe aisément par un bon feu qui me rôtissait parfois et me grillait de tous côtés. Chauffage central, terrible. Les animaux, en plus de ça, qui partagent avec les hommes le wigwam ou la tente, des chats, des chiens, des poules, des cochons et des lapins. Sans compter, comme ils disent, les tawaks. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les puces en bon François, comme ils disent. Et Jean de Brébeuf conclut son texte avec humour. De sortir dehors, le froid, la neige, le danger de s'égarer dans ces grands bois, nous font rentrer plus vite que le vent. Et nous tiennent en prison dans un cachot qui n'a ni clé ni serrure. Il faut sortir pourtant lorsque vient la saison de la chasse ou de la pêche. Autre genre de fatigue, ajoute Brébeuf, nouvelles incommodités. Et ce sont des jours entiers passés à pagailler dans des canaux d'écorce aussi. Qu'il y a des rapides trop dangereux qui surviennent, alors, ou bien le but de l'expédition oblige à quitter une rivière pour une autre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait du portage. Alors là, c'est la marche harassante. Le canot soutenu par la tête et les épaules Parmi les roches sur lesquelles on risque de glisser et sur lesquelles on glisse. Et dans l'enchevêtrement des lianes aussi, des racines et des branches. Je vous cite, ne c'est longue citation, mais écoutez bien, c'est à la fois terrible et très beau. Très beau parce que c'est l'amour qui habite chaque pas de ces hommes. En péril 50 fois le jour de verser ou de briser sur les roches. Pendant la journée, le soleil vous brûle. Pendant la nuit, vous êtes la proie des maringouins. Vous montez, quelquefois, 5 à 6 sauts dans un jour. Et vous n'avez le soir, pour tout réconfort, qu'un peu de blé cuit dans de la belle eau claire. Car la nourriture, comme on devait s'y attendre, est à l'avenant, ajoute-t-il. Une poignée de blé, avec de telles journées, après de telles journées. Et quel blé, cueilli avant même d'être mûr. Il avait croupi 3 mois dans une mare d'eau puante. Les Algonquins ou les Hurons ne sont pas dans ce temps-là des plus raffinés. Alors, je continue, c'est le père Lejeune qui parle, dont je vous ai déjà parlé, Paul Lejeune. Au commencement, que je fus avec eux, comme ils ne salent ni leur bouillon ni leur viande, et que la saleté même fait leur cuisine, je ne pouvais manger de leur salmigondi. Un jour, des souliers venant d'être quittés tombèrent dans notre boisson. On les en retira sans autre cérémonie, puis on but comme si rien ne fût arrivé. Je ne suis pas plus beaucoup délicat, dit-il. C'est des expressions d'autrefois, ajoute le père Lejeune. Cependant, que je n'eus point soif, tant que cette malvoisie dura. La malvoisie, c'est un vin grec doux et liquoreux, qui est très, très apprécié à cette époque. Alors il se moque et il est plein de taquinerie. Il sait rire, Paul Lejeune, jésuite. Et encore, il y a mes chaussures qui servent de condiment, il n'y a pas que ça. Une fois, 3 malades des écrouelles. Les écrouelles, c'est des abcès d'origine tuberculeuse, au cou. 3 malades des écrouelles s'en viennent patouiller dans la chaudière, écrit-il, où était notre boisson commune. Ils lavaient leurs mains aussi, puis ils boirent à pleine tête, comme des animaux. Rejeter leurs restes de dents, d'ailleurs. Ils plongeaient leur vaisselle d'écorce pleine de graisse, de poils d'orignac. D'orignac, c'est comme ça qu'il écrit. De cheveux. Et après cela, nous buvions tous de ce brouet. Un brouet, c'est un bouillon noir. On le buvait comme c'était de l'ambroisie, c'est la nourriture des dieux grecs, ça. Ils ont de la culture, Il le fallait bien malgré la répugnance si l'on ne voulait pas périr d'inanition. Et les chiens de surcroît partagent ces bonbons et portent le nez, leur museau, donc, dans nos écuelles, plutôt que nous n'y portons la main. Et ainsi, en dépit des jours de vaches grasses, où s'entassent dans les chaudières grasseuses les viandes de porc-épic, d'élan, de castor, même de chien, les quartiers d'ours, de cerf et d'orignal, où la chair des poissons de toute espèce, pratiquement les missionnaires, ils ont le carême toute l'année. Il n'y a pas de différence appréciable entre le vendredi saint et le jour de Pâques, parce qu'il faut faire des jeûnes, il y a la famine qui s'installe, alors il faut faire jeûne même le jour de Pâques, très souvent. C'est une vie extrêmement difficile que celle de ces missionnaires jésuites en Nouvelle-France. Et malgré la faiblesse du régime alimentaire abominable, de la difficulté de loger dans ces maisons enfumées, t'entraîne bien des difficultés, évidemment, mais il faut tenir pourtant. Il faut couvrir parfois de longues, longues marches. Il faut se remettre, sans se lasser aussi, à l'étude difficile de la langue des tribus, de la langue des Hurons en particulier. Il faut jour après jour vivre avec des gens qui, je regrette de le dire, c'est dans les relations, vivent dans une inévitable crasse, parce qu'évidemment en hiver, ils ne peuvent pas se laver. Ils ont des vêtements sales, déchirés en guenilles, du linge qu'on n'oserait pas donner aux mendiants des rues, disent-ils. Mais comment continuer? C'est l'enthousiasme de la conquête qui les habite. Et pourtant, C'est l'échec presque partout d'abord. Les robes noires ne sont pas bien vues, évidemment, de tous les Amérindiens. Les sorciers, surtout, sont leurs ennemis. Acharnés. D'ailleurs, avez-vous vu le film « Robe noire » qui date de 1991? Je vous conseille d'aller chercher la cassette. « Robe noire » 1991. Un grand film canadien à voir. C'est ce que ça décrit, ces sorciers. Les sorciers les rendent responsables de tous les malheurs qui arrivent, épidémies, disettes, orages. C'est le père de Brébeuf qui écrit « Notre vie ne tient qu'à un filet. Un mécontent vous peut brûler ou fendre la tête à l'écart. Et puis, vous êtes responsable de la stérilité ou de la fécondité de la terre. » Sous peine de la vie. Vous êtes la cause des sécheresses. Si vous ne faites pas pleuvoir, on ne parle pas moins que de se défaire de vous. Je n'ai que faire de parler du danger qu'il y a du côté des ennemis. Cette nation est fort craintive. Ils ne se tiennent pas sur leur garde. Ils n'ont pas quasi le soin de préparer des armes et de fermer de pieux leur village. Les Hurons, ça. Hein? Leur recours ordinaire, principalement quand l'ennemi est puissant, et la fuite. Alors le père Antoine Daniel, un jour, est abandonné par les Amérindiens, en pleine forêt. Pareille aventure arrive d'ailleurs au père de Brébeuf, il y a bien d'autres encore. D'ailleurs, en 1635, deux missionnaires disparaissent, l'un est mort de froid, puis l'autre est perdu dans les immenses régions inhabitées. On pourrait faire une liste qui s'allongerait comme ça. Mais ce qui est peut-être le plus décevant, par contre, pour ces âmes de prêtres et de missionnaires, c'est le bilan des succès qui récompense bien peu au temps d'héroïsme. 22 baptêmes en 1635, mais 115 en 1636 sur des groupes immenses et des milliers d'Amérindiens. 300 en 1637, c'est pas beaucoup. Mais une seule âme qui trouve l'amour de Dieu console ces cœurs de missionnaires. Et on comprend ce mot de Jean de Brébeuf, hein. Qui croirait venir chercher ici autre chose que Dieu n'y trouverait pas son compte. C'est un aveu loyal d'un autre missionnaire qui m'intéresse et je le retiens. Il n'y a rien qui nous surprenne, c'est un moment de découragement un peu. Il dit, on aimerait mieux recevoir un coup de hache sur la tête que de mener les années durant la vie qu'il faut mener ici tous les jours, travaillant à la conquête des barbares. Barbares, je le rappelle, c'est un mot à l'époque, il veut dire ces étrangers. Ce n'est pas malheureux comme mot. Évidemment, ces parents que je viens de vous citer sont celles d'un prêtre qui n'en peut plus. Faut le comprendre. Mais un coup de hache, c'est tout de même un coup de hache. Et si leur martyr encore se limitait toujours à seulement ça, mais non. Hein. Le 2 août 1642, là, deux mois et demi après la fondation de Ville-Marie, une petite flottille remonte le cours du Saint-Laurent. De Québec, ils s'en vont vers la mission Huron. C'est une vingtaine de Hurons qui la composent. Ils sont tous des catéchumènes ou des chrétiens baptisés, catholiques. Et avec eux, il y a deux Français, le père René Goupil, ou plutôt René Goupil, qui est un frère coadjuteur, lui, de la Compagnie de Jésus. Il a 34 ans. Il est accompagné du père Isaac Jogg, qui a 35 ans. Et c'est un petit homme chétif que cet Isaac Jogg. Il a l'allure timide, hein? Mais en fait, c'est un fort, comme ça arrive chez des petits hommes. Hein? Il a fait un rêve, celui d'être martyr. Pour que le rêve devienne réalité, ben, il a souhaité partir aux missions d'Éthiopie, où, quand il était plus jeune, il voulait aller en Afrique. Mais non, lui a répondu le père Louis Lallemand, le fameux père Louis Lallemand, c'est au Canada que vous mourrez. Et là là, et là là. Et depuis 6 ans, mais il se prépare au martyr, au Canada. En face des îles du lac Saint-Pierre, les canaux, dont je vous ai parlé, cette petite flottille, est assaillie par une bande d'Iroquois et prisonniers des sauvages, qui détestent la robe noire, eh bien Isaac Jogg, parce qu'ils portent leur soutane, Isaac Jogg va connaître toute la gamme des supplices les plus raffinés que je vous ai déjà raconté, mais je vais faire un résumé. Alors c'est la bastonnade, les chairs labourées à coups d'ongles, les blessures avivées au moyen d'haleine rougie au feu, les ongles arrachés, les doigts brûlés ou broyés avec les dents. Rien ne lui est épargné, Puis le soir venu, bien, après le portage épuisant qu'on impose encore aux captifs, ce sont les piqûres lancinantes des maringouins. Alors le 14 août, pour fêter l'arrivée des prisonniers à la première bourgade iroquoise, on fait une danse infernale qui est organisée, un peu comme dans le film La Robe Noire. Ils sont liés très très serrés à des piquets. Ces pauvres malheureux voient autour d'eux tourbillonner les sauvages qui, armés de leurs couteaux ou de leurs tomahawks, arrachent en cadence, lorsqu'ils frôlent leur victime, un morceau de chair sanglante. Et bientôt, le bûcher se dresse. Oh, la mort s'en vient. Alors le frère René Goupil, qui n'a pas prononcé encore ses vœux de frère coadjuteur, parvient à s'approcher du père Jogues. Alors, à côté du bûcher, il fait sa profession de ses vœux, imaginez, de jésuite. Mais brusquement, les Iroquois se ravisent. Oh là, là, ils ont peur. Ils ont peur des représailles pour le jour où les Français de Québec vont apprendre la mort des visages pâles. Alors, les prisonniers sont alors attribués en qualité d'esclaves aux familles de la tribu Mohawk. Parce qu'ils sont chrétiens, ils sont pour leur nouveau maître un objet à la fois de haine et de terreur. On les accuse de sortilèges, toutes sortes de superstitions. Nous vivons encore aujourd'hui, nous les Blancs, dans la superstition, et ne méprisons pas ces Amérindiens. Regardons-nous. Le signe de la croix est considéré comme un signe maudit par ces Amérindiens, parce qu'il porte avec lui le malheur, dit-il. Pour l'avoir tracé d'ailleurs sur un petit enfant, le frère René Goupil tombe un soir à l'oreille d'un bois, la tête fracassée. C'est le 29 septembre 1642. Le sang répandu, c'est le sang des martyrs. Et avec la famille à laquelle il est échu, Isaac Jogues, lui, est parti pour chasser le cerf. Et sous la morsure du froid, mais ses plaies cicatrisées se rouvrent. Là, la faim le torture, ce pauvre père Isaac Jogues. C'est un hiver atroce, d'ailleurs. Vers l'été, cependant, il est rapatrié en France. C'est que, je vous ai raconté ça, hein, un bateau hollandais, sur les instances de la Cour de France, d'ailleurs, a fini par accepter. Et il a donc pourvu qu'il voyage en fond de cale. Il n'a pas été tellement bien traité par les marins hollandais protestants. Mais quand même, on lui a sauvé la vie, et c'est un passager vraiment indésirable, hein, ce prêtre catholique, à bord d'un bateau protestant. Alors, le jour de Noël 1643, le père Isaac Jogues est déposé sur une côte de Bretagne, vous vous souvenez, puis il gagne la résidence des pères jésuites de Rennes, en Bretagne, toujours, et sa réputation de martyr se répand dans toute la France, et la reine Anne d'Autriche, la reine mère de France, le fait venir à Paris. Puis là, le pape Urbain VIII, vous vous souvenez, lui envoie des dispenses nécessaires pour qu'il puisse célébrer la messe, malgré les mutilations absolument horribles. Il a perdu ses doigts, il ne lui en reste qu'un. On peut lire d'ailleurs sur le texte du pape, il serait indigne qu'un martyr du Christ ne pût boire le sang du Christ. Mais le père Isaac Jogues, lui, n'a qu'un désir, c'est de retourner auprès de ses enfants, comme il dit, les enfants du Canada. Et en mars 1644, bien, il traverse l'océan encore, puis il aborde en Nouvelle-France. Et Marie de l'Incarnation note aussitôt, le révérend père Jogues est revenu comme un vrai martyr, qui porte en son corps les traces de la passion du Christ, en somme, les livrées de Jésus-Christ, comme elle écrit. Alors le père Isaac Jogues sait que cette fois, il ira jusqu'au bout de l'Holocauste, du sacrifice plein d'amour pour ses Hurons. Et en octobre, une nouvelle mission de ses supérieurs l'envoie au cœur même du pays des Iroquois. Il part avec un donné, c'est-à-dire Jean de la Lande, c'est comme un oblat, c'est pas un frère, il n'est pas membre de la communauté de Jésus, mais c'est comme s'il était Jean de la Lande. Et le 15 octobre, le jour de la fête de Sainte-Thérèse d'Avila, il est fait prisonnier, puis il invoque auprès des chefs le traité de paix, tout récemment signé entre les Iroquois, ou les Mohawks, si vous voulez, et les Français de Québec. Et pour unique réponse, on le frappe, et un Mohawk à pleine dents arrache de son corps des lambeaux de chair sanglante. Le 18, on reparle de paix. Puis finalement, le père Jogues est invité à titre d'ami à prendre part au banquet de la réconciliation dans une famille du clan des ours. Et au moment où il se baisse pour pénétrer dans la hutte, un coup de hache fait rouler sa tête sur le sol. Comme quoi on respectait pas tellement les traités. Nous étions en 1644 lors du martyre d'Isaac Jogues. Le deuxième martyr, on peut dire. Et en 1632, reculons dans le temps. était arrivé à son tour en Nouvelle-France le père Antoine Daniel. Il a 31 ans. C'est une carrière brûlante qu'il avait, brillante qu'il avait d'avocat, hein, en Normandie, je vous l'ai dit. Et il a renoncé au succès facile pour venir en Nouvelle-France. Il veut se faire Huron avec les Hurons. Il sacrifie l'argent pour la pauvreté, par amour. Il demeure avec les Hurons 2 ans, puis, sur l'ordre de ses supérieurs, il essaie de fonder à Québec un petit séminaire pour les garçons amérindiens. Si l'idée est excellente, la réalisation est peut-être un peu prématurée. L'entreprise échoue complètement. Et le père Daniel partage donc, à partir de là, la vie des Amérindiens, des indigènes. Il se voit finalement confier les avant-postes les plus dangereux de la mission. Il vient d'arriver au bourg de Saint-Joseph là, quand le 4 juillet 1648, tandis qu'il achève de célébrer la messe, le cri de guerre des Mohawks retentit, et encore revêtu de son aube pour la messe, ce missionnaire, en toute hâte, se précipite pour baptiser par aspersion les catéchumènes qui l'entourent dans sa petite chapelle de bois. Puis prononce sur les autres la formule d'absolution générale. Et cet extraordinaire missionnaire va de pied ferme au-devant de l'ennemi. S'il gagne un peu de temps, se dit-il, ben les chrétiens hurons qui viennent justement d'être baptisés peut-être pourront s'enfuir. Et rapidement, ben les Mohawks l'entourent. Là, les coups d'arquebuse partent à bout portant. Et père Antoine Daniel tombe. Il est atteint, mortellement. Dans son église en flammes, les Mohawks jettent le cadavre pour que tout périsse de ce qu'ils exècrent, et le prêtre, et l'autel. Après 8 mois de répit seulement, à l'année 1649, coup sur coup, le sang de 4 autres martyrs va devenir semence de vie, comme on dit dans la tradition chrétienne. Le sang des martyrs, c'est la semence de vie. C'est Jean de Brébeuf, 56 ans, Gabriel Lallemand, 39 ans, Charles Garnier, 38 ans, Noël Chabanel, 36 ans, 4 témoins du Christ qui tombent en cette année 1649. Ils tombent, mais non, ils triomphent. Oui, ils triomphent. Jean de Brébeuf, il est de la basse Normandie. Il est né au jour, chose étrange, l'Annonciation de l'an 1593, l'année de l'abjuration de Henri IV, qui est passé du protestantisme au catholicisme, le roi. Jean de Brébeuf célèbre sa première messe le 25 mars, justement, le jour de l'Annonciation, 1623. Et puis, pendant 2 ans, il est l'économe, le procureur du collège de Bourbon à Rouen, comme je vous ai dit au début, où il avait été quelques années plus tôt régent de grammaire, professeur de lettres. Et en 1625, il est en Nouvelle-France. Il y partage la vie des tribus montagnaises. Une rude pénitence pour ce fils aîné de Gilles II de Brébeuf, seigneur de Condé-sur-Vire, un noble. En Huronie, il gagne la confiance des indigènes qui le surnomment Echom, ce qui veut dire dans leur langue « notre neveu ». Il travaille sans arrêt. Il arrive à traduire dans cette langue l'essentiel du catéchisme, puis il trouve encore le temps de composer pour ces gens des Noëls naïfs et délicieux qui existent toujours. Hein. Il se donne à sa tâche à plein cœur, quoi. C'est un prêtre de feu. Hein. Et cependant, 3 années, il n'a pu faire un seul baptême d'adulte. Pas un seul en 3 ans. Mais il persévère. Il persévère. Et brusquement, il doit partir. Les Anglais viennent de s'emparer de la Nouvelle-France. Une première fois. Les missionnaires, de force, sont rapatriés en France et Jean de Brébeuf reprend au collège de Bourbon, à Rouen, sa tâche obscure de l'économe. Mais à peine le traité de Saint-Germain-en-Laye est-il signé en 1632, le 29 mars, qu'il n'a qu'une hâte, lui, c'est aller retrouver ses Hurons qu'il aime tellement. Alors il se réembarque l'année suivante, en 1633, et de nouveau, il se donne sans compter. Plusieurs fois, il échappe de justesse à la mort. Hein.
Il regarde la face, la mort en face, quoi. Il n'a pas peur. Ça ne l'émeut pas. Il a une assurance noble. Ça lui attire des Amérindiens le titre de capitaine, d'ailleurs, qui est un titre très important chez les Amérindiens. Et cependant, l'ennemi des visages pâles, l'Iroquois, gagne partout du terrain. Puis en 1643, il encercle les postes français. Et pourtant, dès la plus petite trêve, les missions grandissent. Les Amérindiens convertis approfondissent leur foi, surtout. Il y a des saints parmi eux, c'est extraordinaire. Le sang des premiers meurtriers fait lever la moisson. En 1647, il y a 2000 baptêmes. Ce serait trop beau peut-être pour durer, 2000 baptêmes. Les Mohawks ont déterré la hache de guerre encore une fois. Encore une fois. 3 jours durant, ces hommes ont jeûné. Ils sont courageux quand même, mais ils sont vraiment terribles. Ils ont peint leur poitrine de noir et de rouge, puis ils se rendent au festin rituel. À la fin du banquet, ils entonnent un chant de mort terrible. Voici les paroles. Que la rage, ça ressemble à la Marseillaise. Que la rage suffoque mes ennemis. Puisse-je verser leur sang jusqu'à la dernière goutte. Je scalperai leur chevelure, je boirai dans leur crâne, etc., etc. Comme la Marseillaise. Et dans le cœur de Jean de Brébeuf, il y a 10 ans, lui, qu'il scande un autre chant. C'est « Mon Dieu et mon Sauveur Jésus ». Je vous fais vœu de ne jamais manquer à la grâce du martyr si par votre infinie miséricorde vous me la présentez un jour. Et quand j'aurai reçu le coup de mort, je m'oblige à l'accepter de votre main avec tout l'agrément et la joie de mon cœur. Je sens un véhément désir de mourir pour le Christ. En somme, il sait que Dieu l'accompagnera. Dieu l'aime et jusqu'au creux de son martyr, Dieu le revêtira d'amour. Or donc, le 16 mars 1649, sur 9 heures du matin, un Mohawk s'est rué au bourg de Saint-Louis, et puis de nombreux Mohawks arrivent finalement, et les flammes et la fumée tourbillonnent dans le ciel, alors les vieillards, les malades, les enfants, tout ce qui n'a pu fuir et qui pourrait gêner cet ennemi dans sa marche victorieuse et jeter dans le brasier, c'est terrible, et le reste est prisonnier, ça rappelle ce qui se passe au Timor oriental. Ça dure encore. Les hommes sont terribles. Les vêtements arrachés, solidement ligotés, bien les robes noires, font partie de cette épouvantable procession. Et déjà, ce n'est que le début, on leur arrache quelques ongles, les caravanes s'avancent vers le bourg de Saint-Ignace et l'ennemi l'occupe. Dès qu'on y est arrivé, c'est pour les visages pâles une grêle de coups de bâton sur les épaules, sur les reins, sur les jambes, sur l'estomac, sur le ventre et les visages. On voit ça d'ailleurs dans le film « Robes noires ». Et il trouve encore la force d'exhorter les chrétiens indigènes maltraités avec eux. Brébeuf leur dit, « Mes enfants, levons les yeux au ciel, dans le plus fort de nos douleurs, et soutenez avec courage le peu qui reste de tourments. Ils finiront avec nos vies les tourments, et la gloire qui les suit n'aura jamais de fin. » Alors on lui dit, « Échomme, c'est-à-dire neveu, et c'est les Hurons qui disent, « Prie Dieu pour nous. » Qu'il nous fasse miséricorde et nous l'invoquerons jusqu'à la mort. Oui, ils meurent comme des saints. Et maintenant, le supplice commence, un défi tout commentaire. Il faut m'en référer sans plus peut-être à la relation qu'en a fait le 1er mai 1649 le père Jérôme l'Allemand. Ce qu'il rapporte, il le tient de sources certaines et des témoins oculaires. Hein? Des Mohawks présents au bourg de Saint-Ignace, d'ailleurs, se sont convertis plus tard. Il y a aujourd'hui des Mohawks qui sont même diacres dans l'Église catholique et des hommes de foi profonde. Il faut les entendre à Kanawake, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent, chanter à la messe. C'est beau. De Christophe Regnault, un frère coadjuteur, qui a, de ses propres mains, recueilli les corps mutilés de ces saints jésuites. Il faut aussi écouter ce qu'il dit. Les deux martyrs sont liés au poteau, les sauvages s'approchent, ils coupent à l'un les mains. Ils percent l'autre d'haleines aiguës, et de leur pointe de fer, ils leur appliquent sous les aisselles et sous les reins, des haches, toutes rougies de feu. Ils leur en mettent un collier à l'entour du col. Ils leur mirent des ceintures, des corses, toutes pleines de poids et de résine, et ça brûle, ça. Où ils mirent le feu qui grilla tout leur corps. Au père Gabriel l'Allemand, ils crevèrent les yeux et appliquèrent des charbons ardents dans le creux de ses yeux. Le père Jean de Brébeuf Il souffrait comme un rocher, lui. Sans pousser aucun cri, raconte-t-on. Et demeurant dans un profond silence, qu'étonnaient ses bourreaux, Mohawks eux-mêmes. Puis il prêchait à ses infidèles, et plus encore, à quantité de bons chrétiens, captifs, qui avaient compassion de lui. Alors les bourreaux, indignés de son zèle pour l'empêcher de plus parler de Dieu, lui ont fermé la bouche, lui ont coupé le nez, lui ont arraché les lèvres, et en dérision du Saint-Baptême, ses ennemis de la foi s'avisèrent, raconte-t-on, de les baptiser d'eau bouillante. Et des Hurons renégats qui n'ont pas pu passer à travers ce martyre et qui ont abjuré leur foi catholique, d'ajouter aux tortures les sarcasmes. Il lui disait, nous te traitons d'amis, puisque nous serons cause de ton plus grand bonheur. Remercie-nous de tant de bons offices, car plus tu souffriras, plus ton Dieu t'en récompensera. Mais il faut reconnaître que certains de ces Hurons qui ont failli sont revenus à la foi. Au père Brébeuf, on arrache la peau qui couvre le crâne de la tête. On lui coupe les pieds. On lui fend d'un coup de hache la mâchoire en deux et le père Lallemand a reçu un coup de hache sur l'oreille gauche. Il souffre une passion terrible. Et n'oublions pas que le Christ, Jésus, qui est l'objet de tout notre amour, je l'espère, est passé à travers un martyr qui l'a fait mourir. Alors à tous les deux, ces jésuites-là, on a grillé la langue, leur mettant dans la bouche des tisons enflammés, des flambeaux d'écorce, pour les empêcher d'invoquer en mourant. En mourant, ils cherchaient toujours à invoquer celui pour lequel ils souffraient, dit le texte. Étant encore tout plein de vie, on enlevait des morceaux de chair de leurs cuisses. On enlevait même du gras des jambes et de leurs bras, que les bourreaux faisaient rôtir sur les charbons et manger devant eux. Je vous lis les textes authentiques. Et un héroïsme semblable peut vous faire peur, peut-être que ça vous décourage. Ça ne devrait pas vous décourager, au contraire. Un héroïsme semblable, selon l'attestation même d'un Américain protestant, a fait la stupeur des bourreaux. Avant leur mort, on leur arracha leur cœur à tous deux, leur ayant fait une ouverture au-dessus de la poitrine. Et ces barbares s'en repurent inhumainement, écrit cet Américain protestant, buvant leur sang tout chaud, ils croyaient ainsi s'incorporer une partie de leur courage. Cet Américain protestant s'appelait Parkman. C'est dans The Jesuits in North America. Le père Gabriel Lallemand, lui qui avait 39 ans, a résisté longtemps aux souffrances. Il a survécu toute la nuit. Puis le 17 mars au matin, après 15 heures entières de tourments horribles, on lui a fracassé le crâne d'un coup de hache. Je vous rappelle que Jean Brébeuf est mort la veille, vers 16 heures. C'est là que le frère Regnault est venu recueillir les restes. C'est Saint-Charles Garnier qui écrit en avril 1649, « Le père de Brébeuf et le père Lallemand n'ont pas été faits mourir par un tyran qui persécutait l'Église, comme faisaient les anciens tyrans, mais nous les appelons martyrs quand même parce que les ennemis de nos Hurons, les Mohawks, leur ont fait beaucoup endurer en dérision de notre sainte foi. » Les Mohawks étaient du côté des Anglais. Il y avait guerre entre les Anglais et les Français, je vous le rappelle. « Bénissez Dieu, écrit Saint-Charles Garnier, je vous prie, de la faveur qu'il a faite à cette mission donnant cette couronne de gloire à ses deux serviteurs de Sa Majesté. La couronne de gloire, c'est une couronne d'amour. Tout tourne autour de l'amour dans le christianisme. » Saint-Charles Garnier, un Parisien, qui a fait, comme presque tous les hommes illustres de ce temps-là, ses études classiques au collège de Clermont, à Paris. Il part pour le Nouveau Monde l'année même du site de Corneille. Il a un an de plus que Corneille, d'ailleurs. Puis il fait Corneille, qui a écrit Polyeux, où il y a un martyr. Il fait la traversée avec le père Jogues. Et de Québec, il va gagner les terres lointaines de Huronie. Il va y rester jusqu'au bout, c'est-à-dire 13 ans. En 1648, le père Chabanel est avec lui à Saint-Jean. Ils apprennent bientôt l'avance des Mohawks. De partout, c'est la fuite. Les Hurons cherchent asile dans l'île de Manitoulin. et les pères les accompagnent, puis en novembre, l'île est elle-même menacée. Alors, un messager parvient à la mission Saint-Jean, il apporte les directives du père Raguenau, le supérieur de la mission. Que le père Chabanel remonte vers l'île, que le père Garnier se tienne prêt à toute éventualité, est-il dit. Alors, le 7 décembre, les Mohawks à l'improviste se sont rués sur le bourg Saint-Jean. Le père Charles Garnier faisait le catéchisme. Il entend un cri de guerre. Il court à la petite église, absout les chrétiens qui l'entourent et baptise les catéchumènes. Il essaie de faire fuir tous les hurons qu'il peut. Il prépare à la mort ceux pour qui toute fuite est coupée. Deux balles, alors, l'atteignent. Il tombe mortellement atteint. Pourtant, il se relève. À quelques pas de lui, un huron agonise. Il veut l'absoudre encore. Et pendant qu'il se penche sur le blessé, deux coups de hache l'abattent à son tour. On est à la veille de la fête, qu'entre toutes, Saint Charles Garnier aimait, c'était la fête de la Vierge, l'Immaculée Conception. Il avait 33 ans. Pour lui, la vie de missionnaire a été particulièrement rude. Il n'arrive pas à s'y faire, la langue algonquine lui est demeurée indéchiffrable. Il connaît le courage qui broie le cœur. Il mine finalement l'énergie même du corps, mais ces Jésus est extraordinaire, ces chrétiens de feu sont vraiment fantastiques. Il n'a pas pourtant accepté de se rendre. Il veut maîtriser cette guenille, ton corps, qui crie grâce. Il veut plier sa volonté trop frêle. Il veut rester, et rester jusqu'au bout, quoi qu'il puisse en pâtir, comme on est loin de ça, nous. Ah, comme nous sommes lâches. En 1647, afin de mettre un frein aux altermoiements de son âme, écrit-il, il a fait simplement le vœu de demeurer, de mourir en pays de mission, et en cette nuit du 7 au 8 décembre 1649, entouré de quelques hurons chrétiens, il est surpris, au milieu d'une forêt par des guerriers Mohawks. Il échappe à leur poursuite, mais un huron le trahit, il la rejoint, et s'offre à lui servir de guide, et brusquement, au moment où ils vont tous deux traverser la rivière Nottawasaga, eh bien, le huron terrible fait tournoyer sa hache, et Noël, le père Noël Chabanel, s'effondre assommé. C'est à l'aube de la fête, donc, de l'Immaculée Conception. Il avait 36 ans. On pourrait terminer cette émission avec un extrait des écrits des saints martyrs, un choix de texte qui vient de paraître. Je prends ce texte de Brébeuf. Jésus-Christ est notre vraie grandeur. C'est lui seul et sa croix qu'on doit chercher, courant après ses peuples. Car si vous prétendez autre chose, vous ne trouverez rien qu'une affliction de corps et d'esprit. N'ayant trouvé Jésus-Christ en sa croix, vous avez trouvé les roses dans les épines et la douceur dans l'amertume. Vous avez trouvé le tout dans le néant. Le jour suivant, qui était le 12 février, au cours du premier de mes exercices, comme je m'efforçais de demeurer en Dieu avec une pensée uniquement amoureuse, et que je rejetais tout objet créé, et comme à cause de cela j'étais agité de diverses distractions puis rempli d'inquiétude, il m'a semblé entendre intérieurement « Tourne-toi vers Jésus-Christ crucifié, et qu'il soit désormais la base et le fondement de tes contemplations. » Et j'ai alors éprouvé de l'amour pour le Christ. Ô mon Dieu, que n'êtes-vous connu? Que ce pays barbare n'est-il tout converti à vous? Que le péché n'en est-il aboli? Que n'êtes-vous aimé? Oui, mon Dieu, si tous les tourments que les captifs peuvent endurer en ces pays, dans la cruauté des supplices, devaient tomber sur moi, je m'y offre de tout mon cœur. Et moi seul, je les souffrirai. Que cet homme, Brébeuf, est extraordinaire. À la messe, aujourd'hui, en ce 22 septembre, Jésus dit, il leur donna pouvoir et autorité pour dominer les esprits mauvais et guérir les maladies. Et il les envoya proclamer le règne de Dieu et faire des guérisons de l'âme surtout. Et il leur dit, n'emportez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de rechange. Si vous trouvez l'hospitalité dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens refusent de vous accueillir, bien sortez de la ville en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils partirent. Ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Des guérisons surtout de l'âme. Allons-nous faire des guérisons de l'âme de nos enfants? Allons-nous les abandonner à une laïcité qui mêlera tout? Nous ne rencontrerons jamais ce Christ vivant qui peut les faire vivre, grandir en sainteté et dans le bonheur, le plus grand des bonheurs.